Bonjour Jean-Pierre Foubert.
Bonjour Divergent.
Ah oui, alors ça fait drôle de téléphoner à Jean-Pierre Foubert qui a tellement l'habitude de fréquenter les studios de Divergence FM en tant qu'animateur d'une émission politique entre autres et puis aussi de quelques petites chroniques.
Ah. Oui, mais Divergence me manque.
Ah, oui, alors donc on est au téléphone et pourquoi je vous appelle aujourd'hui, Jean-Pierre, c'est pour avoir un peu votre sentiment sur cette curieuse période qui s'est passée, votre vision de la société, puisque vous êtes sociologue, ne l'oublions pas, et puis votre vision aussi plus politique des choses. Alors si vous voulez bien, on va commencer de façon générale. Comment vous avez vécu, vous, et ressenti cette curieuse période du confinement?
Alors, il y a... disons deux niveaux qui m'ont assez intéressé, fasciné. Oui. C'est le fait que de nombreux spécialistes, mais ça n'est pas que lié qu'au domaine médical, ça peut être lié à la sociologie dont je me revendique, etc. Oui. C'est-à-dire avoir des avis de spécialistes censés donc donner un avis d'expert, d'avoir ces avis donc qui puissent être, et notamment dans le domaine médical, alors que les gens attendent une solution quand même, parce qu'il y a une inquiétude, pas que française, mais mondiale, etc. Et on a des avis complètement contradictoires. Le mieux, c'est quand même un professeur de Marseille dont je ne discute absolument pas, ni de bien fondé, ni la qualité scientifique, ni quoi que ce soit, qui lance quelque chose. On voit des gens qui se raccrochent à ça et qui deviennent non pas des gens qui pensent que ce professeur a raison. Non, ils défendent le professeur comme étant justement celui qui a osé remettre en cause
Système, etc.
Oui, un système, etc. Y compris des gens qui disent oui, mais si vous ne soutenez pas le professeur X, dont je ne cite
évidemment non, c'est pas la peine, tout le monde le connaît.
Voilà, tout le monde le connaît. Si vous ne le soutenez pas, c'est que vous êtes pour le système, donc vous admettez que les membres de la faculté de médecine sont tout achetés par les laboratoires pharmaceutiques.
Ouais,
mais on est rentré dans un processus absolument épouvantable, je trouve, mais qui ne m'ont pas rassuré, moi, pas parce que j'avais peur d'attraper le coronavirus, j'aurais pu l'attraper comme n'importe qui, on a transposé le sérieux éventuellement d'un soin à amener à la personnalité de celui qui avait
à l'irrationnel
ce discours. C'est complètement irrationnel.
C'est irrationnel. Et puis alors, peut-être aussi, Jean-Pierre, moi ce qui m'avait fasciné, c'est que maintenant tout le monde est spécialiste. Hein. Je veux dire, on est 60 millions de spécialistes à avoir notre avis sur comment qu'il faut faire.
Oui.
C'est extraordinaire.
Le pire, voilà. Mais le pire, je veux pas accuser qui que ce soit, mais le pire sont les chaînes d'information en continu. Enfin, c'est absolument phénoménal. Au même moment, sur quatre chaînes d'information différentes, on a quatre avis qui convergent ou divergent. Donc, je dois dire que pour rassurer en tout cas la population, puisque apparemment on est dans une espèce de crispation sociale, c'est pas fait pour effectivement faire tomber la pression.
Alors, voilà. Justement, venons-en à ce volet plus social. On a vu, je pense que vous êtes un observateur, vous avez vu quand même que la fracture sociale, pour rappeler ce que disait Jacques Chirac, si je ne m'abuse, la fracture sociale, là, on l'a bien vue, hein. Elle était nette pendant ce confinement.
Oui, je pense qu'elle est forte. Et c'est pas en mangeant des pommes qu'on va résoudre le problème.
Ah non, c'est bien dommage.
mais objectivement, ben, je veux dire, on est passé à... on a augmenté notre dette nationale, on est passé de dette par rapport au PIB je sais plus combien, de 2200 milliards à 2800 et quelques milliards. Plus que dépassé largement le budget de l'État.
Oui, on est bien au-dessus des 100%.
Je n'ose pas parler des fameux 3%, ce qui tend à prouver d'ailleurs que ça ne change rien qu'on soit à 3 ou 5. Donc c'est pas le problème. Non, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est qu'on a pris d'un coup 500-600 000 chômeurs de plus, en tenant compte du fait, et ça je trouve ça absolument ignoble, c'est-à-dire il y a tout un tas de patrons
qui vont profiter du système
local, qui vont profiter du système. Ils n'osaient pas comment ils allaient licencier, parce que ça apparaissait comme de mauvais patrons, etc. vous allez voir un petit peu comment ça va dégager.
Ouais, hélas.
C'est-à-dire que les gens vont... Alors, il y a des situations où manifestement, le nombre de personnes qui travaillent ne peuvent pas continuer dans telle ou telle boîte. Mais je pense qu'il y a des boîtes qui vont licencier parce que ça les arrange.
Un effet
et donc,
de...
c'est toujours la même chose.
L'effet d'aubaine, comme on dit. Hein, l'aubaine.
Oui, hein. C'est-à-dire la seule variable d'ajustement quand on a des problèmes de gestion, c'est le licenciement. Où c'est l'emploi, c'est quand même assez phénoménal, quand même, ce sont les salaires qui permettent d'avoir une... Pendant ce temps-là, Sanofi balance 4 milliards de dividendes à ses actionnaires.
Dernière,
et bien, voilà, donc je pense que...
Ouais, c'est quand même pas très moral, c'est pas très moral tout ça. Hein.
C'est même... Enfin, je veux dire, si ce n'était que moral, à la limite, on pourrait s'en contenter de plus en plus difficilement. Mais là, quand même, les gilets jaunes, ils vont être 10 fois plus, quand même, dans 3 mois. Si
la fracture, oui.
Bien sûr. Et surtout, parce que le gouvernement a payé une partie des salaires des gens qui se retrouvaient dans une espèce de chômage technique, etc. Ouais. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que en fait, quand il y a, si on regarde Sanofi, c'est 4 milliards, mais c'est vrai dans d'autres boîtes, je ne veux pas focaliser sur Sanofi, qui risque, si elle trouve le médicament,
de faire miracle, des bénéfices.
Et faire des milliards de bénéfices, et en même temps, elle licencie, elle a balancé la moitié des postes qu'elle avait sur Montpellier, elle a même détruit un bâtiment tout neuf qui n'avait jamais servi, qui valait 102 millions d'euros, si mon souvenir est bon, 112 millions d'euros, et elle l'a ravé parce que ça n'était plus dans sa perspective de rentabilité de son investissement quand même. Enfin, moi, je trouve ça, est vraiment dans un système. Franchement, je pense qu'il y a un livre à lire. Je ne fais plus ma chronique que vous connaissez je pense qu'il y a un livre à lire. Je vais vous donner la référence. Ça s'appelle « Les luttes de classe au XXIe siècle ». Et c'est une référence au livre de Marx de l'époque. Mais c'est Emmanuel Todd,
qu'on
connaît l'esprit critique, qui est très intéressant sur la structuration de la société française. Et puis, si vous n'avez pas envie ou le temps de lire ce livre magistral, regardez l'article, la très longue interview qu'il a faite dans Marianne.
D'accord.
Vous tapez...
vous allez sur le site de Marianne.
Journal Marianne, Emmanuel Todd, et vous aurez cette interview qui explique très très bien. Et c'est un article de janvier.
Oui, c'était juste avant le confinement. Alors donc, on a fait le tour très rapidement avec vous sur ce confinement. Il y a deux événements qui vont arriver très très bientôt, mais on n'a pas, on le développera certainement dans une autre interview qu'on fera. Mais juste simplement, il y a quand même ces municipales qui vont avoir lieu à la fin juin. Alors là, on va pouvoir reprendre peut-être à distance les petites interviews de tous ces hommes politiques.
Bien sûr. Alors moi, je ne suis pas rentré dans cette espèce de polémique de savoir si la Constitution permettait ceci ou cela, s'il fallait déporter. Tiens. Moi, je pensais que comme nous avions une crise sanitaire qui apparemment est en train de se résoudre, d'ailleurs le gag, c'est que on est en train de lire que peut-être le virus va disparaître tout seul sans médicaments, comme ça a été le cas pour le SRAS la dernière fois, mais bon, c'est une autre question. Mais surtout parce que je me suis dit, moi, j'ai pensé ça, mais d'un point de vue plus politique, je me suis dit, on ne peut pas avoir dans les principales villes de France, puisque c'est là que ça s'est passé, des conseils municipaux qui soient encore comme une épée de Damoclès en attendant un résultat définitif des élections. Donc moi, j'étais pour que des conseils municipaux dans les 35 000 et quelques communes de France soient installés, de manière à ce qu'ils prennent en charge la réalité non seulement sanitaire pour finir ça, la rentrée scolaire, etc., etc., mais surtout être capable de prendre en charge directement la vie de la cité, c'est-à-dire en fait la crise sociale qui va arriver, hein. Mais ça va être un tsunami. Je pense que les gens ne se rendent pas compte, je pense que en tout cas ça n'apparaît pas comme ça, sauf quelques critiques ou analystes, de ce qu'on va subir. Ça va être un tsunami social.
Ah là là, mon pauvre Jean-Pierre, ça va être quelque chose en effet, je pense, cette rentrée.
Ça y est, il y a 500 000 personnes de plus qui se retrouvent au chômage. Avec des artifices, etc., on avait réussi à faire tomber le chômage en dessous de 10%, puis en dessous de 9%, puis à 8%. Mais là, on va repasser à 10 ou 11 ou 12. Et l'été, le problème, ça va être l'amnésie de l'été. C'est-à-dire que l'été va passer là-dessus, et puis tout d'un coup, on va se réveiller en septembre en annonçant quoi ? En annonçant en catégorie A 3 800 000 chômeurs, voilà. Et puis en rajoutant catégorie B et C, les gens qui vont se trouver en dessous du seuil de pauvreté, à 9 ou 10 millions de personnes au lieu de 8,
ouais,
parce que c'est ça qui est en train de se passer. Hein.
On vous entend bien, Jean-Pierre, mais on va devoir arrêter cette petite conversation interview, parce que c'est une question... Vous connaissez la radio, c'est une question de standard pour les rentrer dans la boîte,
absolument,
tout ça. Mais on aura l'occasion de rediscuter, parce que j'aimerais bien faire une autre interview avec vous, plus tard on verra ça, sur la situation internationale et sur nos dirigeants. Alors on fera ça une autre fois. En tout cas, bientôt les municipales, j'espère que vous pourrez venir ou réaliser vous aussi quelques petites interviews de nos hommes politiques avant le 28 juin, hein. J'espère que ça sera possible, on verra.
Absolument.
On verra. En tout cas, à bientôt, portez-vous bien Jean-Pierre.
Merci vous aussi et avec plaisir à vous retrouver, car Divergence me manque.